Grand 4. La première tentative du complot des négriers pour abattre Paris en le faisant occuper par les Prussiens avait échoué devant le refus de Bismarck. La seconde, celle du 18 mars, avait abouti à la déroute de l'armée et à la fuite à Versailles du gouvernement qui ordonna à l'administration entière de tout planter là et de suivre ses traces. Par un semblant de négociation avec Paris, Thiers se donna le temps de se préparer à la guerre contre lui. Mais où trouver une armée? Les restes des régiments de ligne étaient faibles en nombre et de caractère peu sûr. Son pressant appel aux provinces pour renforcer Versailles de leurs gardes nationaux et de leurs volontaires fut accueilli par un refus pur et simple. La Bretagne seule fournit une poignée de chouans qui combattaient sous un drapeau blanc dont chacun portait sur la poitrine un cœur de Jésus en drap blanc, et qui criait « Vive le roi !» Thiers fut donc forcé de rassembler, en toute hâte, une bande bariolée, composée de matelots, de marsouins, de zouaves pontificaux, de gendarmes à Valentin, et des sergents de villes et mouchards de Piétry. Cette armée, toutefois, eût été ridiculement impuissante sans les apports de prisonniers de guerres impériaux que Bismarck accordait en nombre juste suffisant pour tenir en haleine la guerre civile et tenir le gouvernement de Versailles sous la dépendance abjecte de la Prusse. Durant la guerre même, la police de Versailles dut surveiller l'armée de Versailles, tandis que les gendarmes devaient l'entraîner en s'exposant eux-mêmes aux postes les plus périlleux. Les forts qui tombèrent n'étaient pas pris, mais achetés. L'héroïsme des fédéraux convainquit Thiers que la résistance de Paris ne pouvait être brisée par son propre génie stratégique et les baïonnettes dont il disposait. Entre-temps, ses relations avec les provinces devenaient de plus en plus difficiles. Pas une seule adresse d'approbation ne revenait réjouir Thiers et ses ruraux. Tout au contraire. Des députations et adresses demandant, sur un ton qui n'avait rien de respectueux, la conciliation avec Paris, sur la base d'une reconnaissance sans équivoque de la République, l'agrément des libertés communales et la dissolution de l'Assemblée nationale, dont le mandat avait expiré, rappliquaient de tous les côtés, et en telle quantité que Dufort, ministre de la Justice de Thiers, dans sa circulaire du 23 avril au procureur, leur commandait de traiter, ouvrez les guillemets, le mot d'ordre de conciliation, fermé les guillemets, comme un crime. En considération toutefois de la perspective sans espoir qui s'offrait à sa campagne, Thiers résolut de changer sa tactique en ordonnant, par tout le pays, des élections municipales qui devaient avoir lieu le 30 avril sur la base de la nouvelle loi municipale qu'il avait dictée lui-même à l'Assemblée nationale. Tant par les intrigues de ses préfets que par l'intimidation policière, Thiers se flattait d'avoir la santé nécessaire pour concéder, par le verdict des provinces, à l'Assemblée nationale ce pouvoir moral qu'elle n'avait jamais possédé, et pour obtenir enfin des provinces la force physique requise pour la conquête de Paris. Sa guerre de bandits contre Paris, qu'il exaltait dans ses propres bulletins, et les tentatives de ses ministres pour établir, par toute la France, le règne de la terreur, Thiers, dès le début, était soucieux de les accompagner d'une petite comédie de conciliation, qui devait servir plus d'un dessein. Elle devait duper les provinces, rallier les éléments bourgeois de Paris et, par-dessus tout, donner aux soi-disant républicains de l'Assemblée nationale l'occasion de cacher leur trahison envers Paris derrière leur foi entière. Le 21 mars, alors encore sans aucune armée, il avait déclaré à l'Assemblée nationale, ouvrez les guillemets, « Advienne que pourra, je n'enverrai pas d'armée contre Paris », fermez les guillemets. Le 27 mars, il se dressait de nouveau, ouvrez les guillemets, « J'ai trouvé la République un fait accompli et je suis fermement résolu à la maintenir », fermez les guillemets. En réalité, il abattait la Révolution à Lyon et à Marseille. Note de bas de page. La Révolution qui proclama la Commune à Lyon le 22 mars et le 23 mars à Marseille et à Saint-Étienne fut très vite réprimée par le gouvernement de Thiers. En outre, la commune fut proclamée à Toulouse, à Narbonne et quelques autres villes. Fin de la note de bas de page. Donc en réalité, il abattait la révolution à Lyon et à Marseille, au nom de la République, tandis que les rugissements de ses ruraux couvraient la simple mention de ce nom à Versailles. Après cet exploit, il descendit d'un ton du « fait accompli » entre guillemets au « fait hypothétique » entre guillemets. Les princes d'Orléans, qu'il avait avec précaution fait filer de Bordeaux, avaient maintenant, en violation flagrante de la loi, toute licence d'intriguer à Dreux. Les concessions offertes par Thiers dans ses interminables entrevues avec les délégués de Paris et des provinces, bien qu'elles aient constamment varié de ton et de couleur, suivant le moment et les circonstances, en fait ne dépassèrent jamais la promesse de la limitation, en perspective de la vengeance, à, ouvrez les guillemets, la poignée de criminels impliqués dans l'assassinat de Lecomte et Clément Thomas, fermez les guillemets. Sur ces prémices, bien entendu, que Paris et la France devaient accepter sans réserve M. Thiers en personne comme la meilleure des républiques possibles, ainsi qu'il en avait agi en 1830 avec Louis-Philippe. Ces concessions même, il ne se bornait pas à prendre la peine de les rendre douteuses par les commentaires officiels faits à leur sujet dans l'Assemblée par ses ministres. Il avait son Dufort pour agir. Dufort, ce vieil avocat orléaniste, avait toujours été le garde des Sceaux de l'état de siège, aussi bien maintenant, en 1871, sous Thiers, qu'en 1839, sous Louis-Philippe, et en 1849, sous la présidence de Louis Bonaparte. Alors qu'il était sans portefeuille, il avait fait une fortune en plaidant pour les capitalistes de Paris, et s'était fait un capital politique en plaidant contre les lois qu'il avait lui-même engendrées. À présent, il ne faisait pas que dépêcher par l'Assemblée nationale une série de lois répressives qui devaient, après la chute de Paris, extirper les derniers vestiges de liberté républicaine en France. Il laissait prévoir le sort de Paris en abrégeant la procédure, trop lente à son gré, des cours martiales et en édictant un code draconien de déportation d'un nouveau genre. La révolution de 1848, abolissant la peine de mort en matière politique, l'avait remplacée par la déportation. Louis Bonaparte n'avait pas osé, du moins en théorie, rétablir le régime de la guillotine. L'assemblée rurale, pas encore assez enhardie pour prétendre que les Parisiens n'étaient pas que des rebelles mais des assassins, devait donc limiter sa vengeance projetée contre Paris au code de déportation de Dufort. Avec toutes ces circonstances, Thiers lui-même n'aurait pu poursuivre sa comédie de conciliation si elle n'avait, comme il entendait qu'elle le fît, provoqué les hurlements de rage des ruraux dont les esprits ruminants ne comprenaient rien de rien à la pièce, ni à ses nécessités d'hypocrisie, de tergiversation et de temporisation. En vue des élections municipales imminentes du 30 avril, Thiers joua une de ses grandes scènes de conciliation le 27 avril. Au milieu d'un déluge de rhétorique sentimentale, il s'écria de la tribune de l'Assemblée, ouvrez les guillemets. Il n'y a pas de complot contre la République, si ce n'est celui de Paris qui nous oblige à verser le sang français. Je l'ai dit et je le redis encore. Que ces armes impies tombent des mains qui les tiennent, et le châtiment sera arrêté aussitôt par un acte de clémence dont ne seront exclus que le petit nombre des criminels de droit commun. Fermez les guillemets. À l'interruption violente des ruraux, il répliqua. Ouvrez les guillemets. Messieurs, dites-le-moi, je vous en supplie, ai-je tort? Regrettez-vous réellement que j'ai dit, ce qui est vrai, que les criminels ne sont qu'une poignée? N'est-il pas heureux, au milieu de nos malheurs, que les hommes capables de verser le sang de Clément Thomas et du général Lecomte ne soient que de rares exceptions? Fermez les guillemets. La France pourtant fit la sourde oreille à ce que Thiers croyait volontiers être un chant de sirène parlementaire. Des 700 000 conseillers municipaux élus par les 35 000 communes qui restaient encore à la France, les légitimistes, orléanistes et bonapartistes réunis n'en comptaient pas 8 000. Les élections complémentaires qui suivirent furent encore plus décidément hostiles. Aussi, au lieu d'obtenir des provinces la force physique dont elle avait tant besoin, l'Assemblée nationale perdit jusqu'à sa dernière prétention à la force morale, celle d'être l'expression du suffrage universel du pays. Pour achever la déconfiture, les conseils municipaux nouvellement élus de toutes les villes de France menacèrent ouvertement l'Assemblée usurpatrice de Versailles d'une contre-assemblée à Bordeaux. Alors, le moment longtemps attendu d'une action décisive arriva enfin pour Bismarck. Il sommatière péremptoirement d'envoyer à Francfort des plénipotentiaires pour le règlement définitif de la paix. Avec une humble obéissance à l'appel de son maître, Thiers se hâta de dépêcher son fidèle Jules Favre, renforcé de Pouillet-Quertier. Pouillet-Quertier, éminent entre guillemets filateur rouennais, partisan fervent et même servile du Second Empire, ne lui avait jamais trouvé d'autre défaut que son traité de commerce avec l'Angleterre. Note de bas de page. Au terme du traité de commerce conclu en 1860 entre Napoléon III et l'Angleterre, les taxes sur les marchandises anglaises étaient réduites. Fin de la note de bas de page. Donc Pouillet-Quertier, éminent entre guillemets filateur rouennais, partisan fervent et même servile du Second Empire, ne lui avait jamais trouvé d'autre défaut que son traité de commerce avec l'Angleterre, préjudiciable à ses propres intérêts de boutique. À peine installé à Bordeaux comme ministre des Finances de Thiers, il dénonçait ce traité « impie » entre guillemets, faisait allusion à son abrogation prochaine et avait même l'effronterie de tenter, inutilement d'ailleurs, ouvrez la parenthèse, il comptait sans Bismarck, fermez la parenthèse, la mise en vigueur immédiate des vieilles taxes protectionnistes contre l'Alsace où, disait-il, aucun traité international antérieur ne s'y opposait. Cet homme, qui considérait la contre-révolution comme un moyen de faire tomber les salaires à Rouen et la reddition des provinces françaises comme un moyen de faire monter le prix de ses marchandises en France, n'était-il pas le prédestiné, au choix de Thiers, comme compère de Jules Favre dans sa dernière et culminante trahison? À l'arrivée à Francfort de ce couple exquis de plénipotentiaires, cette brute de Bismarck les accueillit sur le champ par cette alternative impérieuse. Ou la restauration de l'Empire, ou l'acceptation inconditionnelle des termes de « ma paix à moi ». Ces conditions comportaient un raccourcissement des intervalles auxquels devait être payée l'indemnité de guerre, et l'occupation continue des forts de Paris par les troupes prussiennes, jusqu'à ce que Bismarck se tînt pour satisfait de l'état des choses en France. La Prusse étant ainsi reconnue comme arbitre suprême dans la politique intérieure de la France. En retour de quoi, il offrait de relâcher, pour l'extermination de Paris, l'armée bonapartiste prisonnière, et de prêter l'assistance directe des troupes de l'empereur Guillaume. Il donnait garantie de sa bonne foi par le fait qu'il rendait le paiement du premier versement de l'indemnité fonction de la « pacification » entre guillemets de Paris. Un tel appât, naturellement, c'est avec avidité que Thiers et ses plénipotentiaires l'avalèrent. Ils signèrent le traité de paix le 10 mai et le firent ratifier par l'Assemblée de Versailles le 18. Dans l'intervalle entre la conclusion de la paix et l'arrivée des prisonniers bonapartistes, Thiers se sentit d'autant plus tenu à reprendre sa comédie de conciliation que ces créatures républicaines avaient un besoin douloureux de trouver un prétexte pour fermer les yeux sur les préparatifs au carnage de Paris. Le 8 mai encore, il répondait à une députation de conciliateurs de la classe moyenne, ouvrez les guillemets. Quand les insurgés se seront décidés à capituler, les portes de Paris resteront ouvertes à tous, pendant une semaine, sauf aux assassins des généraux Clément Thomas et le comte. Fermez les guillemets. Quelques jours après, comme il était violemment interpellé par les ruraux au sujet de ses promesses, il refusa d'entrer dans des explications, non pourtant sans leur donner cet avis significatif. Ouvrez les guillemets. je dis qu'il y a parmi vous des impatients, des hommes trop pressés. Il leur faut attendre encore 8 jours. Au bout de ces 8 jours, il n'y aura plus de danger. Et alors, la tâche sera à la hauteur de leur courage et de leur capacité. Fermez les guillemets. Dès que Mac Mahon fut en mesure de lui assurer qu'il pourrait, sous peu, entrer dans Paris, Thiers déclara à l'Assemblée, ouvrez les guillemets, qu'il entrerait à Paris la loi à la main et exigerait une expiation complète des scélérats qui avaient sacrifié la vie de nos soldats et détruit nos monuments publics, fermez les guillemets. Comme le moment de la décision approchait, il dit à l'Assemblée, ouvrez les guillemets, « Je serai impitoyable, fermez les guillemets. » À Paris, qu'il était condamné, et à ces bandits bonapartistes, qu'ils avaient permission d'État de tirer vengeance de Paris tous leurs sous. Enfin, quand la trahison eut ouvert les portes de Paris au général Douai le 21 mai, Thiers, le 22, révéla aux ruraux le but, entre guillemets, de sa comédie de conciliation qu'ils avaient persisté si obstinément à ne pas comprendre. Ouvrez les guillemets. Je vous ai dit, il y a quelques jours, que nous approchions de notre but. Aujourd'hui, je suis venu vous dire, nous avons atteint le but. L'ordre, la justice, la civilisation ont enfin remporté la victoire. Fermez les guillemets. C'est bien cela. La civilisation et la justice de l'ordre bourgeois se montrent dans leur lumière sinistre chaque fois que les esclaves et les souffre-douleurs de cet ordre se lèvent contre leur maître. Alors, cette civilisation et cette justice apparaissent comme la sauvagerie sans masque et la vengeance sans loi. Chaque nouvelle crise dans la lutte de classe entre l'accapareur et le producteur met en lumière ce fait avec plus d'éclat. Les atrocités des bourgeois en 1848 elles-mêmes disparaissent devant l'indicible infamie de 1871. L'héroïque esprit de sacrifice avec lequel la population de Paris, hommes, femmes et enfants, combattit pendant 8 jours après l'entrée des Versaillais, reflète aussi bien la grandeur de leur cause que les exploits infernaux de la soldatesque reflètent l'esprit inné de cette civilisation de laquelle ils sont les vengeurs mercenaires. Glorieuse civilisation, certes, dont le grand problème est de savoir comment se débarrasser des monceaux de cadavres qu'elle a faits quand la bataille est passée. Pour trouver un parallèle à la conduite de Thiers et de ses limiers, il nous faut remonter au temps de Sylla et des triumvirats de Rome. Même carnage en gros de sang-froid, même insouciance dans le massacre, de l'âge et du sexe, même système de torturer les prisonniers, même proscription, mais cette fois d'une classe entière, même chasse sauvage aux chefs cachés, de peur qu'un seul puisse échapper, même dénonciation d'ennemis politiques et privés, même détachement envers la boucherie de gens entièrement étrangers à la querelle. Il n'y a que cette seule différence que les Romains n'avaient pas de mitrailleuse pour expédier en bloc les proscrits et qu'ils n'avaient pas, ouvrez les guillemets, la loi à la main, fermez les guillemets, ni, sur les lèvres, le mot d'ordre de la civilisation, entre guillemets. Et après ces horreurs, regardez l'autre face, encore plus hideuse, de cette civilisation bourgeoise telle qu'elle a été décrite par sa propre presse. Ouvrez les guillemets. Avec des coups de feu égarés, écrit le correspondant de Paris d'un journal tory de Londres, qui retentissent encore au loin, quand de malheureux blessés, abandonnés, meurent parmi les pierres tombales du Père Lachaise, quand 6 000 insurgés, frappés de terreur, qui errent dans l'agonie du désespoir par les labyrinthes des catacombes, quand des malheureux sont précipités à travers les rues pour être abattus par vingtaines par la mitrailleuse, il est révoltant de voir les cafés remplis des dévots de l'absinthe, du billard et des dominos, la dissipation féminine qui circule à travers les boulevards et, troublant la nuit, le bruit de la bombance s'échappant des cabinets particuliers des restaurants à la mode. Fermez les guillemets. Monsieur Édouard Hervé écrit dans le Journal de Paris, journal versaillais supprimé par la Commune, ouvrez les guillemets. La manière dont la population de Paris, ouvrez le crochet, point d'exclamation, fermez le crochet, a manifesté hier sa satisfaction était plus que frivole, et nous craignons que cela n'empire avec le temps. Paris a maintenant un air de fête qui est tout à fait déplacé, et si nous ne voulons pas qu'on nous appelle les Parisiens de la décadence, il faut mettre un terme à cet ordre de choses, fermez les guillemets. Puis il cite le passage du Tacite, ouvrez les guillemets. Cependant, le lendemain de cette horrible lutte, avant même qu'elle ne fût tout à fait terminée, Rome avilie et corrompue recommença à se vautrer dans le bourbier de volupté où elle avait détruit son corps et souillé son âme. Alibi praelia et vulnera, alibi balnea popinaeque. Ouvrez les parenthèses. Ici des combats et des blessures, là-bas des bains et des cabarets. Fermez la parenthèse. Fermez les guillemets. Monsieur Hervé oublie seulement de dire que la, ouvrez les guillemets, population de Paris, fermez les guillemets, dont il parle, n'est que la population du Paris de Monsieur Thiers, les francs-fileurs revenant en foule de Versailles, Saint-Denis, Rueil et Saint-Germain, le Paris de la « décadence », entre guillemets. Dans tous ces sanglants triomphes sur les champions d'une nouvelle et meilleure société qui se sacrifiaient eux-mêmes, cette civilisation scélérate, fondée sur l'asservissement du travail, noie les gémissements de ses victimes sous un haro de calomnie que répercute un écho mondial. Le serein Paris ouvrier de la Commune est soudain changé en un podémonium par les limiers de « l'ordre », entre guillemets. Et que prouve ce changement terrible à l'esprit bourgeois de tous les pays? Eh bien, que la Commune a conspiré contre la civilisation. Le peuple de Paris meurt avec enthousiasme pour la Commune, en nombre sans égal à celui des morts d'aucune bataille. Qu'est-ce que cela prouve? Eh bien, que la Commune n'était pas le gouvernement propre du peuple, mais une usurpation d'une poignée de criminels. Les femmes de Paris, joyeusement, donnent leur vie sur les barricades et sur le lieu de l'exécution. Qu'est-ce que cela prouve? Eh bien, que le démon de la Commune les a changées en mégères et en hécates. La modération de la Commune pendant 2 mois d'une domination incontestée n'a d'égal que l'héroïsme de sa défense. Qu'est-ce que cela prouve? Eh bien, que pendant 2 mois, la Commune a caché soigneusement sous un masque de modération et d'humanité la soif de sang de ses instincts de furie qui ne devaient être débridés qu'à l'heure de son agonie. Le Paris ouvrier, en accomplissant sur lui-même son héroïque holocauste, enveloppa dans ses flammes des monuments publics et des édifices particuliers. Alors qu'ils mettent en pièces le corps vivant du prolétariat, ses maîtres ne doivent plus compter rentrer triomphalement dans l'architecture intacte de leur demeure. Le gouvernement de Versailles crie « incendiaire » et souffle cette consigne à tous ses agents jusqu'au plus reculé des hameaux, donner partout la chasse à ses ennemis sous la suspicion d'être des professionnels de l'incendie. La bourgeoisie du monde entier, qui regarde complaisamment le massacre en grand après la bataille, est convulsée d'horreur par la profanation de la brique et du mortier. Quand les gouvernements donnent permission d'État à leur marine de, ouvrez les guillemets, tuer, brûler et détruire, fermez les guillemets, est-ce là une licence d'incendie? Quand les troupes britanniques délibérément mettaient le feu au Capitole de Washington et au palais d'été de l'empereur de Chine, était-ce l'acte d'incendiaire? Quand les Prussiens, non pour des raisons militaires, mais par simple goût de vengeance, consumaient au moyen du pétrole des villes comme Châteaudun et d'innombrables villages, était-ce l'acte d'incendiaire? Quand Thiers, 6 semaines durant, bombarder Paris sous le prétexte qu'il voulait mettre le feu aux maisons seules qui étaient habitées, était-ce l'acte d'incendiaire? En guerre, le feu est une arme aussi légitime qu'une autre. Des bâtiments occupés par l'ennemi sont bombardés pour être incendiés. Si leurs défenseurs doivent battre en retraite, ils allument eux-mêmes les flammes pour empêcher les assaillants de se servir des bâtiments. Être consumé a toujours été le sort inévitable de tous les bâtiments situés sur le front de combat de toutes les armées régulières du monde. Mais dans la guerre des asservis contre les asservisseurs, la seule guerre justifiable dans l'histoire, ce n'est plus vrai du tout. La commune a employé le feu strictement comme moyen de défense. Elle l'a employé pour interdire aux troupes de Versailles ces longues avenues toutes droites qu'Haussmann avait expressément tracées pour le feu de l'artillerie. Elle l'a employé pour couvrir sa retraite, de la façon même dont les Versaillais, dans leur avance, employaient leurs obus qui détruisaient au moins autant de bâtiments que le feu de la commune. Quels bâtiments ont été mis en feu par la défense et quels bâtiments par l'attaque, cela se discute encore aujourd'hui. Et la défense ne recourut au feu que lorsque les troupes versaillaises eurent déjà commencé le meurtre en grand des prisonniers. D'autre part, la commune avait longtemps auparavant notifié pleinement en public que si elle était poussée aux extrémités, elle s'ensevelirait elle-même sous les ruines de Paris, et ferait de Paris un second Moscou, comme le gouvernement de la Défense, mais lui, rien que pour déguiser sa trahison, avait promis de le faire. À cet effet, Trochu leur avait trouvé du pétrole. La commune savait que ses adversaires n'avaient aucun souci de la vie du peuple de Paris, mais qu'ils avaient grandement souci de leurs immeubles. Et Thiers, d'autre part, leur avait notifié qu'il serait implacable dans sa vengeance. À peine posséda-t-il son armée sur pied d'un côté et les Prussiens qui fermaient le piège de l'autre, qu'il proclama, ouvrez les guillemets, « Je serai impitoyable, l'expiation sera complète et la justice inflexible », fermez les guillemets. Si les actes des ouvriers de Paris étaient du vandalisme, c'était le vandalisme de la défense au désespoir, non pas le vandalisme du triomphe, comme celui que les chrétiens perpétrèrent sur les trésors réellement sans prix de l'Antiquité païenne. Et même ce vandalisme a été justifié par l'histoire comme l'accompagnement inévitable et relativement insignifiant du combat titanesque entre une nouvelle société montante et une ancienne qui s'écroule. C'était encore moins le vandalisme d'Haussmann rasant le Paris historique pour faire place au Paris du touriste. Mais l'exécution par la commune des 64 otages, archevêque de Paris en tête. La bourgeoisie et son armée, en juin 1848, avaient rétabli une coutume qui avait longtemps disparu de la pratique de la guerre, l'exécution des prisonniers des armées. Cette coutume brutale a depuis lors plus ou moins été suivie par les répresseurs de tous les soulèvements populaires en Europe et aux Indes, prouvant ainsi qu'elle constitue bien un réel, ouvrez les guillemets, progrès de la civilisation, fermez les guillemets. D'autre part, les Prussiens, en France, avaient rétabli l'usage de prendre des otages, gens innocents qui avaient à répondre, au prix de leur vie, des actes des autres. Quand Thiers, comme nous l'avons vu dès le début même du conflit, établit la pratique humaine d'abattre les communards prisonniers, la commune, pour protéger leur vie, fut dans l'obligation de recourir à la pratique des Prussiens de se procurer des otages. Les vies des otages avaient été plus d'une fois condamnées par les exécutions continuelles des prisonniers du côté des Versaillais. Comment auraient-elles pu être épargnées plus longtemps après le carnage par lequel les prétoriens de MacMahon avaient célébré leur entrée dans Paris? La dernière garantie contre la férocité sans scrupule des gouvernements bourgeois, les otages, devait-elle elle-même tourner à la frime? Le véritable meurtrier de l'archevêque d'Arbois, c'est Thiers. La commune, à plusieurs reprises, avait offert d'échanger l'archevêque et tout un tas de prêtres par-dessus le marché contre le seul Blanqui, alors aux mains de Thiers. Thiers, obstinément, refusait. Il savait qu'avec Blanqui, il donnerait une tête à la commune, alors que l'archevêque servirait mieux son dessein sous forme de cadavre. Thiers agissait selon le précédent Cavaignac. Quels cris d'horreur en juin 1848 ne poussèrent-ils pas Cavaignac et ses hommes d'ordre pour stigmatiser les insurgés comme assassins de l'archevêque Affre? Ils savaient parfaitement bien que l'archevêque avait été abattu par les soldats de l'ordre. Monsieur Jacquemet, vicaire général de l'archevêque, présent sur les lieux, tout de suite après, leur en avait fourni le témoignage. tout ce cœur de calomnie que le parti de l'ordre ne manque jamais, dans ses orgies de sang, de soulever contre ses victimes, ne fait que prouver que le bourgeois de nos jours se considère comme le successeur du baron de jadis, qui trouvait toute arme légitime dans sa propre main contre le plébéien, alors qu'aux mains du plébéien, une arme quelconque constituait en soi-même un crime. La conspiration de la classe dirigeante pour abattre la révolution par une guerre civile, poursuivie alors sous le patronage de l'envahisseur étranger, conspiration que nous avons suivie du 4 septembre même jusqu'à l'entrée des prétoriens de MacMahon par la porte de Saint-Cloud, atteignit son sommet avec le carnage de Paris. Bismarck dévore des yeux les ruines de Paris, où il voit peut-être le premier raconte de cette destruction générale des grandes villes pour laquelle il faisait des prières alors qu'il était encore un simple rural dans la chambre introuvable prussienne de 1849. Il dévore des yeux les cadavres du prolétariat de Paris. Pour lui, ce n'est pas seulement l'extermination de la Révolution, mais l'extinction de la France, maintenant décapitée en réalité, et par le gouvernement français lui-même. Avec la légèreté caractéristique de tous les hommes d'État heureux, il ne voit que la surface de ce formidable événement historique. Quand donc auparavant l'histoire a-t-elle montré le spectacle d'un vainqueur qui couronne sa victoire en se faisant non seulement le gendarme, mais le bravo loué du gouvernement vaincu? Il n'y avait pas de guerre entre la Prusse et la Commune de Paris. Au contraire, la Commune avait accepté les préliminaires de paix et la Prusse avait annoncé sa neutralité. La Prusse, donc, n'était pas un belligérant. Elle joua le rôle de bravo, d'un bravo lâche, puisqu'elle ne courait aucun danger, d'un bravo loué, puisqu'elle avait d'avance stipulé que le prix du sang, ses 500 millions, lui serait payé à la chute de Paris. Et ainsi, enfin, apparaissait le véritable caractère de cette guerre ordonnée par la Providence en châtiment de la France, athée et débauchée par la pieuse et morale Allemagne. Et cette violation sans parallèle de la loi des nations, même telle que l'entendaient les anciens légistes du monde, au lieu d'amener les gouvernements « civilisés » entre guillemets d'Europe à déclarer hors la loi entre les nations le gouvernement prussien félon, simple instrument du cabinet de Saint-Pétersbourg, les incite seulement à considérer si les quelques victimes qui échappent au double cordon formé autour de Paris sont ou non à livrer au bourreau de Versailles. Qu'après la plus terrible guerre des temps modernes, le vaincu et le vainqueur aillent fraterniser pour le massacre en commun du prolétariat, cet événement sans pareil indique bien, non comme Bismarck le pense, l'écrasement définitif d'une nouvelle société montante, mais l'écroulement en poussière de la société bourgeoise. Le plus haut effort d'héroïsme dont la vieille société est encore capable est une guerre nationale. Et c'est maintenant prouvé qu'elle est une pure mystification gouvernementale conçue pour retarder la lutte des classes et pour être jetée de côté aussitôt que cette lutte de classe éclate en guerre civile. La domination de classe ne peut plus se déguiser avec un uniforme national. Les gouvernements nationaux ne font qu'un contre le prolétariat. Après la Pentecôte de 1871, il ne peut y avoir ni paix ni trêve acceptable entre les ouvriers de France et les accapareurs de leur production. La main de fer d'une soldatesque mercenaire pourra tenir un moment les deux classes liées sous une commune oppression. Mais la bataille devra éclater à plusieurs reprises dans des proportions toujours croissantes et il ne peut y avoir de doute sur le point de savoir qui sera finalement vainqueur, le petit nombre accapareur ou l'immense majorité travailleuse. Et la classe ouvrière française n'est que l'avant-garde du prolétariat moderne. Tandis que les gouvernements européens témoignent ainsi devant Paris du caractère international de la domination de classe, ils injurient l'Association internationale des travailleurs, la contre-organisation internationale du travail opposée à la conspiration cosmopolite du capital, selon eux, source maîtresse de tous ces désordres. Thiers la dénonçait comme le despote du travail, prétendant en être le libérateur. Picard donnait l'ordre de couper toutes les communications entre les internationaux français et ceux de l'étranger. Le comte Jobert, complice momifié de Thiers en 1835, déclare que le grand problème pour tous les gouvernements civilisés est de déraciner l'international. Les ruraux rugissent contre elle et toute la presse européenne se joint au cœur. Un honorable écrivain français, complètement étranger à notre association, parle en ces termes. Ouvrez les guillemets. Les membres du comité central de la garde nationale, aussi bien que la plus grande partie des membres de la commune, sont les esprits les plus actifs, les plus intelligents et les plus énergiques de l'Association internationale des travailleurs. Des hommes qui sont profondément honnêtes, sincères, intelligents, dévoués, purs et fanatiques, dans le bon sens du mot. Fermez les guillemets. L'esprit bourgeois, tout imbibé de police, se figure naturellement l'Association internationale des travailleurs agissant à la manière d'une conjuration secrète, son organe central commandant, de temps à autre, des explosions en différents pays. Notre association n'est en fait rien d'autre que le lien international entre les ouvriers les plus avancés dans les divers pays du monde civilisé. En quelque lieu, sous quelque forme et dans quelques conditions que la lutte de classe prenne quelque consistance, il n'est que bien naturel que les membres de notre association se placent au premier plan. Le sol dont elle s'élève est la société moderne même. Elle ne peut en être extirpée par aucune débauche de carnage. Pour l'extirper, les gouvernements auraient à extirper le despotisme du capital sur le travail, condition de leur propre existence parasitaire. Le Paris ouvrier, avec sa commune, sera célébré à jamais comme le glorieux fourrier d'une société nouvelle. Ses martyrs sont enclos dans le grand cœur de la classe ouvrière. Ses exterminateurs, l'histoire les a déjà cloués à un pilori éternel duquel toutes les prières de leurs prêtres n'arriveront pas à les racheter. Londres, le 30 mai 1871. Le Conseil général, R. Applegorth, Ant Arnault, M. J. Boone, F. R. Bradnick, J. G. Buttery, F. Cournet, E. de la Haye, Eugène Dupont, W. Hales, Hurleyman, Jules Johannard, Harriet Lowe, F. R. Lesner, Lochner, Charles Longuet, Marguerite, Constant Martin, Henry Maillot, George Milner, Charles Murray, Pfänder, J. Rodvanovsky, John Roach, Rühl, G. Ranvier, Vitale Régis, Sadler, Cowell Stepney, Alf Taylor, W. Townshend, Edward Vaillant, John Weston, F. J. Yarrow. Secrétaire correspondant, Karl Marx, Allemagne et Russie, Léo Frankel, Autriche et Hongrie, A. Hermann, Belgique, T. H. Motorshead, Danemark, J. G. Ecarius, États-Unis, Le Moussu, section française des États-Unis, Auguste Serraillé, France, Charles Rocha, Hollande, J. P. McDonnell, Irlande, Fred Engels, Italie et Espagne, Valérie Wroblewski, Pologne, Hermann Jung, Suisse. Hermann Jung, président de la séance. John Hales, secrétaire général. Londres, le 30 mai 1871, Rathbone Place, 10. Note à la première édition française, ouvrez la parenthèse, Bruxelles, 1872, fermez la parenthèse. Nous n'avons pas besoin de dire que les membres et fonctionnaires de la commune dont les noms figurent au bas du manifeste et qui font aujourd'hui partie du Conseil général n'ont connu le texte de cette publication qu'à leur arrivée à Londres. S'ils y mettent aujourd'hui leur signature, c'est pour qu'on ne puisse douter qu'ils en revendiquent hautement les principes. Fin de la note.